Chapitre 32. Chou blanc. Comment ça, chou blanc? Fouiller son sac, confisquer son arme et l'affaire sera pliée. Il était 23h30. Didi était chez elle, elle donnait son biberon du soir à Jack. Il était blotti contre sa poitrine, petit paquet chaud à peu près de la même taille et de la même forme qu'une bouillotte, et ils se balançaient ensemble dans le rocking chair. Un petit moment d'intimité familiale, donc ça n'avait pas raté. Son portable avait sonné. « J'ai interrogé Charlène Grant à la seconde où elle a franchi la porte », continua Dan Shepherd, lieutenant au commissariat de Grosvenor. « Je lui ai dit qu'on m'avait signalé qu'elle venait avec une arme sur son lieu de travail et que c'était contraire au règlement. Elle m'a répondu qu'il y avait erreur. C'était avec un chien qu'elle était venue, et ça ne se reproduirait plus. »« Oh, c'est pas vrai !»« Elle m'a laissé inspecter son sac, pas de 22, commandant. Retour à la case départ. » »«
Voilà ce qui arrive quand on fout en l'air une audition. »
murmura Didi, plus pour elle-même que pour Shepherd. « Tu bluffes, tu fous la trouille aux témoins. Résultat, tu repars bredouille.
Oh, le capitaine O. Je vais lui faire tatouer, je t'avais prévenu, à l'envers, sur le front. Comme ça, elle n'aura plus qu'à se regarder dans le miroir avant les interrogatoires.
« Je vous demande pardon ?»«
Je pensais à voix haute. Vous avez retrouvé le planning de Charlène ?»
Cet après-midi-là, quand Didi avait appelé Shepherd pour l'informer qu'un membre de son personnel civil était peut-être armé, elle en avait profité pour lui demander de vérifier l'emploi du temps de Charlène au moment des deux premiers meurtres. Douglas Antihold avait été tué le 9 décembre. Ils attendaient encore confirmation de la date exacte du décès de la seconde victime, Stephen Laurent, mais ça devait tourner autour du 11 ou du 12 janvier. « Charlène a travaillé dans la nuit du 9 décembre », indiqua Shepherd.
« Prise de service à 23h ?»«
C'est ça. 23h, 7h. » Didi hocha la tête contre le combiné, replaça légèrement Jack dans ses bras pour être plus à l'aise. Antihold avait été tué en fin d'après-midi, début de soirée. Ça laissait tout le temps à Charlène de le dégommer et d'être quand même à l'heure au boulot. Elle a aussi travaillé dans la nuit du 11 janvier et elle a fait des heures sup jusqu'à midi.
« 13h d'affilée ?»«
Le maximum, c'est 16.
Mince, on dirait nos horaires. »«
Le centre opérationnel n'est pas fait pour les mauviettes. » En même temps, le soir du 12, elle ne travaillait pas, ça explique sans doute qu'elle ait travaillé si tard.
Je vois.
Il allait falloir qu'elle rappelle le légiste, Ben, pour qu'il précise le jour et l'heure du décès de Laurent. Vu où se trouvait le commissariat de Grosvenor, Charlène n'avait pas pu rejoindre son quartier avant 13h et encore. Donc, en l'état actuel des choses, Charlène n'avait aucun alibi pour le premier et le troisième meurtre, mais il restait un point d'interrogation pour le deuxième. Didi avait poursuivi bien des suspects pour moins que ça. Elle revint à la question qui l'occupait de manière plus immédiate.
« Vous l'aviez déjà entendu dire qu'elle venait avec une arme au travail ?»«
Bien sûr que non. J'aurais tout de suite mis le holà. » »«
Elle parle souvent de son passé, de son enfance ?»«
Commandant, la permanence de nuit s'effectue en solo. Par définition, ça décourage les bavardages oiseux. »«
Et les autres agents en service ?»«
Ils sont payés pour patrouiller, pas pour traîner au commissariat. »
Et les pauses?
Le dîner, le cinquième repas, je ne sais pas comment vous appelez l'encas du milieu de la nuit.
Elle essayait de reconstituer l'emploi du temps de Charlène, cherchait à quel moment elle aurait pu, disons, filer en douce et commettre un meurtre ni vu ni connu.
Une pause de 30 minutes pour se restaurer. La plupart apportent leur repas et le mangent dans leur voiture de patrouille, ou dans le cas de Charlène, à son bureau.
C'est tout? Pour une permanence de 8h?
Deux pauses de 15 minutes. La moitié de nos agents en profitent pour s'en griller une. Pas Charlène, si je me souviens bien. Elle soigne sa condition physique.
Et si elle doit aller aux toilettes?
Elle se met en code 10-6 et prend une pause.
Mais si elle est seule à assurer la permanence, qui répond aux appels?
L'officier de garde, en général un sergent en tenue.
Donc il y a bien quelqu'un qui travaille avec elle la nuit.
Exact. Mais le sergent est installé dans la salle principale, tandis que le standard est une petite pièce fermée. Une sorte d'ancien placard envahi d'écrans, de téléphones et de radios.
Est-ce que vous le sauriez si elle avait quitté le standard? Si par exemple elle avait pointé à son arrivée, mais qu'elle était sortie du commissariat?
Impossible.
Pourquoi?
D'après vous, le sergent et elle ne peuvent même pas se voir. Mais ils peuvent s'entendre. Charlène est la référente de tous les agents en patrouille. Donc non seulement ils la contactent pendant leur service, mais elle-même les contacte si elle ne les entend pas sur les ondes. Elle appelle leur numéro de patrouille, vérifie qu'on sait bien où se trouve chaque agent. 926 au central, 926 au central, ce genre de choses. À quand remonte votre dernière patrouille, commandant?
Un petit moment.
Ça ne s'arrête jamais sur les ondes.
Même de nuit, le travail de Charlène consiste à parler et à écouter. Et nos casques ne sont pas performants au point qu'elle puisse recevoir depuis le parking, et encore moins depuis la rue. Donc, quand Charlène est à son poste, elle est à son poste. C'est ça. Didi, la moue pensive, réfléchissait. Ça se tenait, et de toute façon, cela ne la disculpait en rien. « Je peux vous poser une question ?» demanda Shepherd. « Allez-y. Pourquoi cette enquête sur notre opératrice ? Vous savez, je n'ai pas l'occasion de travailler en direct avec Charlie, mais je peux vous dire qu'elle est compétente. Fiable, digne de confiance, elle prend soin de nos agents. Les gens l'apprécient. D'après elle, aucun de vous ne la connaît. Les nuitards ne sont pas des animaux sociaux. Vous avez vérifié ses antécédents ? Ça va de soi. Des choses notables ? Elle avait une bonne recommandation du Colorado. Pardon ? D'Arvada, dans le Colorado, son premier emploi d'opératrice. Didi fut parcourue d'un frisson. C'est loin de Boulder, Arvada ?
Qu'est-ce que j'en sais ? Je suis de Revers.
Didi réfléchissait à toute allure. La mère de Charlène, ce cadavre non identifié retrouvé à Boulder. En apprenant la nouvelle ce matin, Charlène n'avait même pas signalé qu'elle avait vécu dans le Colorado. Bizarre, non ? D'autant que, au cours des 10 dernières années, sa mère et ses 2 meilleures amies étaient toutes mortes. Une seule et même femme, Charlène Grant, avait laissé dans son sillage 3 cadavres dans 3 états différents. Vu de chez Didi, c'était plutôt risqué de la connaître ces temps-ci. Ça augmentait vos chances de passer prématurément l'arme à gauche, et le pire, ce serait que Charlène, avec sa mémoire capricieuse, ne se souviendrait même pas de vous.
« On peut savoir sans savoir », avait dit Charlène. « Mécanisme d'adaptation pour surmonter une enfance difficile. »
Personnalité multiple dont chacune ne se souvenait que d'un fragment du puzzle avait répliqué haut. Ça expliquait la mémoire lacunaire de Charlène, les messages cryptés et contradictoires, l'apparente capacité de cette fille à pleurer certaines victimes tout en commettant d'autres meurtres.
Didi tournait et retournait les déclarations de Charlène et la théorie de haut dans sa tête, et rien de tout cela ne lui plaisait.
« Je veux ce pistolet », murmura-t-elle avec frustration.
« Désolé, commandant, j'ai fait de mon mieux. »
« Je sais, je sais. »
Didi posa encore quelques questions, parla un peu boutique, puis, n'obtenant rien de plus, mit un terme à la conversation. Jack dormait, le biberon sur le côté, en pyjama. Elle se leva du rocking chair, posa le biberon sur la table basse et prit un moment pour serrer son fils contre elle. Elle chassa l'affaire de ses pensées, mit de côté Charlène Rosaline Carter Grant, les assassins de pédophiles et les tueurs de meilleurs amis. Elle tint son bébé dans ses bras, respira son parfum suave, lait maternisé, talc, innocence des nouveau-nés. Elle regarda la petite poitrine de son fils se soulever et s'abaisser en rythme, admira sa frimousse chiffonnée, ses 10 minuscules doigts parfaits, ses 2 poings détendus. Elle s'émerveilla de ce petit miracle, son enfant. Puis elle déposa un baiser délicat sur son front plissé, l'installa dans son transat et se servit un verre d'eau juste avant que son portable ne résonne. Elle regarda l'écran. Le capitaine O. Elle répondit.
Prophétie autoréalisatrice, dit-elle en guise de préambule. D'abord, tu juges toi-même que ton suspect est farouche, et ensuite tu lui fous la trouille, histoire qu'elle se dérobe. Félicitations. Charlène est allée au travail, mais elle n'a pas emporté son 22.
Oh que si ! Annonça O d'une voix triomphale.
Didi prit le temps de boire une autre gorgée d'eau en essayant de comprendre quel épisode elle avait raté.
Comment tu le sais ?
Je l'ai suivi.
Tu as suivi Charlène Grant ?
Plus exactement, je l'ai attendu sur le parking du commissariat de Grosvenor. Comme ça, s'ils avaient réussi à confisquer son arme, j'aurais pu l'emporter tout de suite au laboratoire d'analyse.
À 23h, un vendredi,
j'avais appelé John Cassir, l'expert en balistique, pour lui demander de rester.
Didi tiqua de nouveau. Ses méthodes de bulldozer l'agaçaient, lui donnaient envie de remettre la jeune enquêtrice à sa place. Mais elle s'abstint. O avait bien fait de prendre les devants. Rien à redire à une stratégie agressive quand on a affaire à un tueur en série. À vrai dire, autrefois, Didi aurait eu exactement la même idée, au lieu de quitter le travail pour aller retrouver son bébé. Oui, elle avait dit qu'elle reviendrait après le dîner, seulement Alex était visiblement épuisé après ses dernières nuits, elle-même était fatiguée suite à sa nuit blanche, sans parler de son petit déjeuner avec ses parents, et donc l'idée de s'occuper de Jack lui avait davantage souri que celle de reprendre la voiture pour retourner à Roxbury. Elle pouvait travailler depuis chez elle et aussi appeler ses parents pour arranger les choses. Ben voyons.
Donc, j'étais au commissariat, racontait O, et j'ai vu Charlie arriver de la station de métro.
À ce moment-là, un patrouilleur est sorti de sa voiture et l'a abordée. Au début, j'ai cru que c'était un ami, mais elle s'est mise en garde et lui-même avait la main sur son pistolet. Comme s'il allait lui arracher son sac et qu'elle allait résister. Et puis, sans transition, il est parti. Après ça, elle a sorti son pistolet de son sac, elle l'a enveloppé dans une écharpe et elle l'a enfoui dans un tas de neige.
Tu te fous de moi ?
Non ? Alors tu penses bien qu'à la seconde où elle est entrée dans le commissariat, je suis allée chercher son 22 pour la porter direct au labo. J'y suis à l'instant même. Cassir espère avoir des conclusions d'ici demain matin.
Didi ne savait pas trop comment réagir devant ce brusque revirement de situation. On a 6 balles retrouvées sur 3 scènes de crime. Elles sont toutes les 6 en assez bon état pour chercher des concordances ?
Non, mais Cassir a des balles utilisables pour les 2e et 3e meurtres. Pour le premier, c'est une autre paire de manches. Les 2 balles se sont écrasées en ricochant dans le crâne d'Antihold, donc ça risque de ne pas être concluant. Mais on a les messages qui font le lien entre les 3 meurtres, donc il suffirait qu'on rapproche le rayage du 22 de Charlie avec les éraflures d'une seule des balles qu'on a récupérées, raisonna Didi à voix haute.
Tout juste.
Didi hocha la tête. O avait bien bossé. Et Didi avait tort de lui en vouloir. À ce stade de sa carrière, elle se devait d'être un soutien, la policière expérimentée qui guidait sa collègue plus novice, qui passait plus ou moins le relais. Bref, qui vieillissait.
« Tu as interrogé la tante ? » demanda-t-elle.
« Pas encore. J'ai été trop occupée à prendre Charlie à son propre jeu, mais j'ai bien fait, non ?»
Qu'elle ait été occupée, Didi voulait bien le croire. Cependant, le côté obsessionnel de O l'inquiétait un peu.
« Tu vas retourner à Grosvenor ?» s'enquit-elle.
« Pourquoi ?
Au point où tu en es ?» O ne répondit pas, ce que Didi prit pour un oui. « Tu veux voir Charlie sortir du commissariat à la fin de son service, pas vrai ? La voir fouiller la neige à la recherche de son arme ?»
O resta silencieuse. « Elle pense avoir besoin de cette arme pour se défendre dans quelques heures, » rappela Didi.
« Qu'est-ce qu'elle fera, tu penses, quand il aura disparu ?»«
Si elle est maligne ?» Elle se rendra. On peut la protéger en la jetant en prison.
Fais-moi confiance, l'assassin de ses amis n'aura jamais l'idée de la chercher là.
Ta première arrestation ?
Pas vraiment.
C'est difficile, quand on travaille dans la brigade des mœurs, d'imaginer arrêter une femme qui fait peut-être une partie de votre boulot.
Fais-nous davantage confiance. On est très capable de faire notre boulot nous-mêmes.
Didi en était moins certaine, vu le nombre de pédophiles que, faute de preuves, elle avait dû laisser en liberté au cours de sa carrière. Mais elle termina son verre d'eau et revint à leur affaire.
« Des messages sur Facebook ?»«
Plus 1 000 000 d'amis, » indiqua O. « Beaucoup de connexions depuis Atlanta et Providence, des parents, des amis des victimes. Je ne peux pas faire des recherches sur tous ceux qui postent. Pour une telle charge de travail, il nous faudrait au moins 1/2 douzaine d'agents. Alors je lis en diagonale pour voir s'il y aurait des messages bizarres, des commentaires déplacés. Jusqu'ici, la seule personne intéressante est l'ex de Randy.
Il n'est pas au chaud en prison ?
Apparemment, il a accès à Internet parce qu'il a fait partie des premiers amis. Il a écrit « Paix à son âme » et la date du meurtre.
Connard.
Je peux jeter de l'huile sur le feu si tu veux. Écrire « Au moins, Randy est libéré de son salopard de mari », un truc du genre.
Fais ça. Ce sera une bonne chose de voir sa réaction.
Tu pourrais aussi regarder s'il n'y a pas des messages en provenance du Colorado ?
En réponse à une question de O, Didi expliqua que Charlie avait autrefois travaillé à Arvada.
« Quand est-ce que la mère est morte, déjà ?» demanda O avec excitation.
« Il y a 8 ans. Il faut que je croise précisément les dates et les lieux, mais je crois que ça correspond à l'époque où Charlène bossait au centre opérationnel d'Arvada.
Elle est morte comment ?»
Le coroner penchait pour des causes naturelles, une défaillance hépatique provoquée par un alcoolisme de longue date, mais le corps avait reposé un moment in situ avant qu'on le découvre. Donc déterminer les causes de la morte n'est plus de la divination que de la science.
« Suffocation, » dit O. « Un oreiller sur le visage. Voilà ce que j'aurais fait. »
Tuer la mère comme elle avait autrefois assassiné ses bébés ?
Dans ce cas, le coroner aurait retrouvé des indices d'asphyxie, un purpura pétéchial.
Pas si la décomposition était suffisamment avancée. Tu le disais toi-même, ça tenait plus de la divination que de la science.
« Tu crois que Charlène l'a tuée ?»
C'était une question sincère. Cette coïncidence, la mère qui meurt dans le Colorado précisément à l'époque où Charlène y travaille, tracassait Didi. Et cependant, Charlène a posé toutes les questions qu'il fallait quand nous l'avons interrogée. Elle n'est jamais partie du principe que sa mère était morte.
Elle a d'abord envisagé la prison, puis l'hôpital psychiatrique, et finalement la mort. Elle a même demandé comment sa mère était décédée, alors si c'est elle qui l'a tuée, qui a retrouvé sa trace à Boulder, qui est allée la voir, et qui pendant 5 bonnes minutes a maintenu un oreiller sur son visage pendant que l'autre se débattait comme une furie, ça mérite un Oscar.
Le capitaine O ne répondit pas tout de suite.
Tu l'apprécies toujours ?
Ça n'a rien à voir avec le fait de l'apprécier ou non. Je réfléchis à voix haute. Les bons enquêteurs échangent des arguments. C'est tout le sel de notre métier.
Elle a grandi auprès d'une tueuse. Elle a peut-être vu sa mère étouffer 2 bébés, à moins qu'elle ne les ait étouffés elle-même.
Tu pousses loin tes hypothèses.
Quoi qu'il en soit, elle a été maltraitée de façon chronique. Pense aux liens affectifs qui ne se sont jamais formés. À l'absence d'empathie, les bonnes âmes voudraient nous faire croire qu'un peu d'amour apaise toutes les souffrances. Dans la police, on sait que ce n'est pas vrai.
Elle prétend qu'elle aimait Rosalind.
Ça n'a rien changé. Peut-être même que c'est la mort de la petite qui l'a fait basculer. Elle a explosé. Elle s'est violemment disputée avec sa mère, et elle l'aurait tuée si celle-ci ne l'avait pas poignardée avant.
Très hypothétique, là encore.
Maman quitte la scène côté jardin. Charlie part dans les montagnes du New Hampshire. Nouvelle maison, nouvelles règles, nouvelle stabilité. Ça a peut-être fonctionné un certain temps, jusqu'au jour où ses amis se sont dispersés et où cette pauvre Charlie s'est de nouveau retrouvée toute seule. Peut-être qu'elle a décidé de chercher sa mère pour finir le boulot.
J'aimerais vraiment avoir un témoin, une preuve quelconque que Charlie était, ne serait-ce qu'au courant que sa mère vivait à Boulder.
Saisis son ordinateur.
Elle n'en a pas.
Je parie que sa tante en a un, dans le New Hampshire. Chope-le. Penche-toi sur les anciens fichiers, il y aura un courriel quelque part, une recherche sur Internet. De nos jours, il y en a toujours. Et puis, je te parie qu'elle a toujours accès à un ordinateur. Par exemple, elle emprunte un des postes de dépannage de la bibliothèque municipale de Boston, elle s'en sert pour traquer les pédophiles et ensuite elle le rend à l'accueil. Comme tu le disais à Neil ce matin, personne n'est complètement déconnecté et tout le monde laisse des traces. Il suffit de continuer à creuser. Peut-être qu'il y a 8 ans, Charlie a cherché sa mère, qu'elle l'a retrouvée et qu'elle l'a tuée. Et ça l'a soulagée. Justice était faite.
Didi ne pouvait pas contester ce raisonnement. La mort de la mère de Charlie semblait bel et bien réparer une injustice. Et elle espérait vraiment que tout le monde laissait des traces sur Internet. Elle avait parlé avec Phil juste avant le dîner. Neil et lui avaient saisi 8 appareils électroniques dans la chambre de Barry. Ils espéraient maintenant que les génies de l'informatique leur dégoteraient un maximum de traces, notamment celles qui relieraient Barry aux 2 autres pédophiles, et celles qui permettraient de comprendre comment un démon aux yeux bleus, pour reprendre une expression de leur jeune témoin, avait traqué l'adolescent.
Donc, Charlene Grant aurait tué sa mère, reprit Didi. Et ça lui aurait tellement plu qu'elle aurait décidé d'attendre 8 ans avant de rejouer les justiciers masqués en exterminant méthodiquement les pédophiles de Boston ? Peut-être qu'elle n'a pas attendu 8 ans. Peut-être qu'il y a eu d'autres assassinats de pédophiles ailleurs. Nous ne sommes au courant que des 3 qui se sont passés sous notre nez. Sans compter que le stress est un facteur déclenchant essentiel chez les assassins, et il suffit de regarder Charlene Grant pour savoir qu'elle est à un brin stressée en ce moment.
Elle se tient à carreau jusqu'au moment où le stress dépasse la cote d'alerte, et là, elle charge une arme pour se défouler un peu.
Pourquoi pas ? Il y a pire comme raison de tuer des pédophiles.
Toujours très hypothétique.
C'est bien pour ça, rétorqua sèchement le capitaine O, que je l'ai suivi ce soir, que j'ai mis la main sur son 22 et que je l'ai apporté au labo. Demain, plus rien à foutre des hypothèses. On aura un rapport balistique.
J'espère, murmura Didi, vu qu'on vient de prendre à une victime potentielle l'arme qu'elle détenait en toute légalité pour se défendre contre son assassin, et ce, à la veille du grand jour.
Oublie les autres meurtres. Répliqua O, presque irritée. Tout tourne autour de Charlene. Ce qui est arrivé dans son enfance, à ses frères et sœurs et à elle. Je doute même qu'elle soit une cible demain. Je parie que c'est elle l'instigatrice de tout ça. Enfin, quoi ? Il y a un paquet de gens qui ont subi des mauvais traitements dans leur enfance et ça ne les empêche pas de se souvenir qu'ils ont été poignardés par leur mère ou ce genre de petits détails insignifiants. Seulement, mademoiselle Charlene prétend avoir tout oublié. Je crois que c'est son premier mensonge.
Tu disais qu'elle était comme Sibyl, je croyais, ce qui expliquerait son amnésie. Ce n'est pas Charlene qui a été poignardée par sa mère, mais plutôt sa personnalité victime, Rosalind. Et donc, Charlene ignore réellement cet épisode, et ce ne serait pas réellement elle qui aurait fait des cartons sur les pédophiles, mais une sorte de personnalité protectrice, Abigail.
Baliverne.
L'idée vient de toi.
C'était juste histoire d'échanger des arguments. C'est tout le sel de notre métier, pas vrai ?
Didi ne comprenait pas. O changeait vraiment d'avis comme de chemise.
Bon, on est au moins d'accord sur un point. Il nous faut ce rapport balistique.
Bravo d'avoir saisi le pistolet et de t'être arrangé avec le labo.
Didi sentit le malaise palpable de O à l'autre bout du fil et ne put s'empêcher de penser à une autre enquêtrice de sa connaissance qui avait toujours été plus à l'aise face aux critiques qu'aux compliments.
« Dis-moi, » reprit-elle avec autorité.
« Oui. Rentre chez toi. Dors un peu. On a environ 7 heures devant nous avant que Charlène quitte son travail et que John Cassir ait les résultats des tests. Ce qui veut dire que demain sera très certainement une grosse journée et... » Didi hésita. Vu que ce sera la date anniversaire de 2 meurtres, la nuit sera peut-être encore plus longue.
Aucun problème, répondit immédiatement O. 11 heures, on arrête Charlène. 13 heures, elle comparaît au tribunal. 15 heures, elle est en sécurité derrière les barreaux. Autrement dit, si un tueur la veut, il va falloir qu'il perce un tunnel dans les parpaings pour arriver jusqu'à elle.